France Musique. Open Jazz, Alex Dutille, France Musique.
Bonsoir à toutes et à tous, et bonsoir Emmanuel Guibert, ravi de vous recevoir.
Merci cher Alex, bonsoir.
La guerre d'Alan, l'enfance d'Alan, c'était des livres publiés à l'association qui ont été réédités, il y a eu plusieurs éditions, et c'est devenu, ça a inspiré aujourd'hui un album qui s'appelle « La musique d'Alan » qui est publié chez Vision Fugitive. France Musique est fière d'être partenaire de cet objet, je dirais, parce que il y a un livret illustré par vous, avec des textes, des photos, des références au livre en question. Vous aviez pas imaginé, j'imagine, Emmanuel Guibert, que vos livres deviendraient un disque un jour, qu'il y aurait une bande son.
Ah non, je dois dire que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait fait de ma vie. Et je pèse mes mots. Philippe Galmetti, donc, qui est le producteur de ce disque, il y a un certain temps, m'a parlé de cette initiative. Et
Dire que sa passion du jazz et sa passion de la bande dessinée se font concurrence un peu. Hein.
Oui, voilà. En l'occurrence, elles se marient. Et donc, il a mené à bien tout le branle-bas de combat nécessaire pour faire converger du côté de Pernes-les-Fontaines, vers Carpentras. Là,
studio mythique.
Dans le studio mythique de Gérard de Haro, la Buissonne, pour faire converger 6 musiciens, 3 Américains et 3 Français. Ce qui est déjà une belle idée, une idée délicate de départ, puisque ces livres sont le fruit d'une amitié entre moi français et Alan Ingram Cope, qui était américain. Donc ces 6 musiciens, il y a une petite année maintenant, se sont retrouvés dans le studio La Buissonne. Et en effet, ils avaient bien fait leur devoir, chacun avait lu les 2 livres en question, chacun dans sa langue. Et ils avaient composé les uns et les autres, chacun 2 morceaux, inspirés par l'un ou l'autre épisode au choix. Extrait de la guerre ou de l'enfance, ouais. et ces morceaux, ils les ont donc enregistrés ensemble à la faveur d'une semaine magique que j'ai eu l'extrême privilège de passer au milieu d'eux.
Tout d'un coup, ça vous avait échappé.
Ah, c'était extraordinaire d'assister à ça. Mon copain Alan est mort il y a exactement 20 ans. Il y avait exactement 20 ans l'année dernière au moment où on a fait cet enregistrement. C'était fortuit, enfin il se trouvait que c'était cet anniversaire. Et c'était un mélomane et un pianiste d'ailleurs, à la fois totalement autodidacte et complètement passionné. Et le fait qu'il devienne de la musique 20 ans après sa mort, c'est une chose qui l'aurait enchanté, vraiment. Donc, et a fortiori cette musique-là.
On va écouter un premier extrait de cette musique. Je poserai ensuite une question pour gagner l'un des 10 exemplaires que vous nous avez amenés de ce très, très beau album, La musique d'Alan. On va commencer avec The Secret Music Room, inspiré d'un chapitre de la guerre d'Alan. C'est le chapitre 8 de ce volume. Et le sextet franco-américain, c'est les 3 Américains, Bill Carothers au piano, Peck Carothers à la voix et Matt Turner au violoncelle, et les 3 Français, Jean-Marc Foltz à clarinette, Philippe Moratoglou au guitare et Stéphane Oliva pour un deuxième piano. Ici, c'est Bill Carothers qui va être le premier pianiste et on entendra ensuite, dans la deuxième partie du morceau, Stéphane Oliva.
Thank you.
The Secret Music Room, composé par Stéphane Oliva pour ce projet, la musique d'Alan autour de l'œuvre d'Emmanuel Guibert, qui est avec nous en direct aujourd'hui. Et j'étais en train de vous dire, quand j'ai lu La guerre d'Alan, Emmanuel Guibert, j'ai été frappé par l'intimisme, la façon dont tout ça se passe dans la conscience d'un homme qui a vécu la guerre avec douleur, avec fragilité. Il masque rien de ses doutes, de sa fragilité. Et je trouve que la musique très chambrée du sextet correspond vraiment à ce qui devait être l'état d'esprit d'Alan. Est-ce que vous avez retrouvé ça de votre côté, vous qui avez beaucoup parlé avec cet Alan?
Ah oui. Oui, j'étais sensible au fait que vous fermiez les yeux à la fin du morceau, là, et que vous-même, vous soyez saisi d'un certain recueillement, et que vous laissiez mourir la dernière note, comme ça.
Le dessinateur est forcément observateur, je constate.
Mais le fait est que, oui, moi je suis à l'écoute de ces morceaux comme je l'étais à celle d'Alan quand il était assis en face de moi, comme vous l'êtes aujourd'hui, avec entre nous des verres de bière et de Coca-Cola. Et ça se passait à Saint-Martin-de-Ré, où il avait pris sa retraite. Voilà, là où il vivait. Il avait à 1 kilomètre de sa maison de ville un jardin au centre duquel il y avait un petit chalet. C'est là qu'on a eu la plupart de nos conversations.
Et vous avez fait combien d'épisodes de conversations? Parce qu'il vous a raconté sa vie.
On a eu 5 ans pour être copains. Il est mort au bout de ces 5 ans, d'ailleurs, pour ainsi dire, dans mes bras. Et donc, c'est une amitié qui nous avait menés très loin dans le partage, dans la complicité. Et pendant ces 5 ans, comme il le disait lui-même, on n'a pas jeté nos heures et on a passé beaucoup de temps, on a consacré beaucoup de temps à son récit, et puis aussi à plein d'autres choses, parce que c'était une vraie amitié qui était composée également du fait de faire du vélo, d'aller piquer une tête dans la mer, de faire la cuisine, etc. Mais l'essentiel de notre temps, il était consacré à, pour lui, le récit, et pour moi, l'écoute.
Pour faire court, il s'agit d'un jeune Américain qui se trouve, on ne suit le parcours qui précède sa mobilisation, sa formation avant qu'il traverse l'Atlantique. Le débarquement, il est presque anecdotique dans l'histoire. Mmh. Et c'est ce qui s'est passé après aussi, où il a décidé de rester en France. Mmh. Et j'imagine, quand vous avez entamé cette conversation, vous n'imaginiez pas avoir tous les détails qui vont surgir petit à petit et que vous avez mis en page et en dessin.
Oui, quand on tombe dans les bras de quelqu'un comme ça, au coin d'une rue, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre, et c'est la merveille des rencontres. Le fait est que, l'ayant très longuement écouté, je me suis rendu compte en effet que j'étais à la tête d'une foison extraordinaire de détails sur une existence riche, comme l'a été par force celle de tous ces jeunes gens qui ont été extraits brutalement de chez eux, sur la tête desquels on a mis un casque, entre les mains desquels on a mis un flingue, et qui ont dû, à l'âge tendre quand même de 18 ans, subir d'abord une préparation militaire extraordinairement rude. Il fallait ramper sous des barbelés, on leur tirait dessus à balles réelles, ça rigolait pas. Et puis ensuite, donc, prendre un jour un paquebot, traverser l'Atlantique et arriver, alors heureusement pour lui, pas en 44, mais tout début 45, au Havre, qui était une ville plate comme une crêpe, hélas, à l'époque, suite au bombardement terrible que cette ville avait subi. Et il a ensuite, rapidement, dans une tourelle d'engin blindé, traversé l'Europe entre le Havre et la frontière entre la Pologne et la Tchécoslovaquie.
Il est allé jusqu'à l'extrême est de la guerre.
Il a fait partie des 70 soldats américains qui se sont retrouvés le plus à l'est au matin du 8 mai. Avant que de refluer en vertu des accords de Yalta. Et voilà, c'est tout ça qui m'a raconté par le menu, d'une façon, si j'ose dire, non spectaculaire, très maîtrisée, très imagée, ce qui m'a permis moi-même d'en tirer des images, et ce qui permet aujourd'hui que des musiciens se penchant là-dessus soient à leur tour inspirés.
Je vais poser la question, si vous permettez, Emmanuel Guibert, pour permettre à nos auditeurs de gagner l'un des 10 exemplaires de la musique d'Alan, qui sortit donc aux éditions Vision Fugitive. La question va porter sur l'œuvre de l'un de vos collègues. C'était en 1987, Loustal pour les dessins et Paringo pour le texte, publié chez Casterman, une BD inspirée de son vivant, de la vie de Barney Whelan, là où il en était. comment s'appelait cet ouvrage. J'ai trois titres possibles pour les auditrices et les auditeurs de France Musique. Première hypothèse, Barnet et la note bleue. Deuxième hypothèse, Barnet, les miles et une nuit. Troisième hypothèse, Barnet Round Midnight. Quel est le bon titre? Barnet et la note bleue, Barnet les miles et une nuit, Barnet Round Midnight. Pour répondre sur l'onglet Contactez-nous, sur la page Open Jazz, sur francemusique.fr. Et n'oubliez pas de mettre vos noms, prénoms et adresses pour recevoir l'album.
The dinner, it was plentiful, delicious and divine. I met my aunts and uncles and cousins twice my size. We gathered round the table, all in all were 23. The meat and mashed potatoes vegetables complete, but how we wished we weren't so full. The cousins, they confirmed, they agreed they wanted more. Then off they ran right out the door, shouting joyful with a bang.
Cake, composé par la chanteuse Peg Carothers pour ce sextet qui joue la musique d'Alan. C'est Bill Carothers au piano. Peg était donc à la voix. Jean-Marc Foltz, clarinette. Philippe Moratoglou à la guitare. On entendait Stéphane Oliva au piano droit qui était aussi dans le studio. Et Matt Turner était au violoncelle. Et vous étiez vous-même, Emmanuel Guibert, dans le studio à Pernes-les-Fontaines pendant l'enregistrement. Mais vous étiez côté technicien, à côté de Gérard de Haro, ou vous étiez au milieu des musiciens?
Alors j'en ai encore des frissons rien que d'y repenser. J'étais au milieu des musiciens et ils m'ont dit très gentiment dès le premier jour, c'est ton livre donc tu es au milieu de nous. Il n'est pas question que tu sortes quand le rouge est mis comme on fait d'ordinaire. Là tu restes là et si on t'entend dessiner
ou faire tomber un crayon,
ça fera partie de l'enregistrement. C'est ton livre. Bon, je trouvais ça extrêmement généreux de leur part. Et je dois dire que on m'entend pas dessiner sur le disque. Par contre, j'ai dû me gendarmer pour qu'on m'entende pas bramer, parce que j'étais régulièrement débordé par une émotion qui venait très exactement des réactions qu'avait Alan à l'intérieur de moi, en fait. Je sentais mon copain se réjouir à un point tel que ça se traduisait par des torrents de larmes chez moi. Et j'ai passé comme ça des moments d'intense émotion et de grand bonheur.
La musique d'Alan autour de l'œuvre d'Emmanuel Guibert.
Alhambra's main street, such a luxury was rare. Malted milkshakes served ice cold. We drank it through big straws. I could hardly finish mine for a young boy so small. But father didn't waste a drop. In fact, he drank it all. As children, we would grab their stalks and tie a double knot to hold us up. We'd swing under these pepper trees, a game I really loved. The black sap oozed and glued our hands. It smelled so good we hardly noticed. But I'd get in trouble many times for spicy, sappy clothes.
Milkshakes and Pepper Tree, signé Jean-Marc Fols pour la composition, lui aussi inspiré de l'enfance d'Alan, votre livre, Emmanuel Guibert, et c'était les pianistes qui étaient allés faire un tour dehors, puisqu'on entendait simplement Peck Carothers à la voix, Jean-Marc Fols clarinette, Philippe Mouratoglou à la guitare et Matt Turner au violoncelle, Bill Carothers et Stéphane Oliva ayant respiré de l'autre côté de la vitre peut-être à ce moment-là, où ils étaient restés dedans comme vous, je ne sais pas. Il y a eu comme ça des distributions de le sextet s'est réparti en petits groupes pendant l'enregistrement. Ils ont essayé des choses où c'était écrit pour la formule complète au départ, Emmanuel Guibert.
Il y a eu les deux, il y a eu des choses préécrites, il y a eu des moments d'improvisation comme ici à des musiciens de jazz. Le maître mot de tout ça, on l'a constaté en écoutant vous et moi les yeux mi-clos comme ça, ce qu'on vient d'entendre. Le maître mot de tout ça, c'est la délicatesse. Mmh. Ce qui est beau, c'est que c'est un monde d'hommes et de femmes délicats. Voilà. Et Alan m'a inspiré ça. j'ai essayé à ma façon, dans les livres, de faire passer cette fibre de délicatesse humaine, et elle a été merveilleusement reprise au vol par les musiciens, et c'est enchanteur.
C'est une belle année pour vous, parce que cet album voit le jour, vous avez eu le Grand Prix du Festival d'Angoulême cette année, et vous allez avoir une exposition qui va démarrer le 9 septembre jusqu'au 18 octobre à l'Académie des Beaux-Arts à Paris.
Oui.
Est-ce qu'on va y voir les planches des livres qui ont inspiré les musiciens ?
Bien sûr, c'est une exposition qui s'appelle Biographie dessinée, qui sera à 50% consacrée à Alan Cope et à 50% consacrée à un autre ami que j'ai eu et à qui j'ai consacré des livres, qui s'appelait Didier Lefebvre, qui était photographe, et le livre en question s'appelle Le photographe. Et donc, dans la portion, si j'ose dire, consacrée à Alan, il sera fait évidemment mention de ce disque. On y verra d'ailleurs le carnet de croquis que j'avais sur moi pendant cette session, pendant l'enregistrement. Et du côté de Didier Lefebvre, ce sera évidemment plus la photographie qui sera mise à l'honneur. Côté Alan, il sera montré, bien sûr, des planches extraites de l'enfance d'Alan, de la guerre d'Alan et d'un troisième livre dont il n'est pas question aujourd'hui parce que il n'a pas servi de nutriment pour le disque, mais qui s'appelle Martha et Alan.
Qui est une amie d'enfance de Alan. Moi, je l'ai ouvert en me disant, tiens, ça doit être son histoire d'amour avec son épouse, mais pas du tout, c'est... Bon, c'est une histoire, c'est une autre histoire, voilà. J'ai pensé, alors je n'ai jamais rencontré, moi, Alan Cope, contrairement à votre ami, Emmanuel Guibert, mais j'ai imaginé que ce « Sometimes I feel like a motherless child » de Marian Anderson allait lui plaire.
Sometimes
Marianne Anderson, est-ce que ça aurait plu à Alan Kopp, Emmanuel Guibert? Est-ce qu'il avait des goûts musicaux dont il vous a parlé?
Alors non seulement ça lui aurait plu, mais évidemment c'est lui qui m'a fait connaître Marianne Anderson. On passait des après-midi chez lui à... dans ce qu'ils appelaient des concerts de disques, c'est-à-dire qu'il m'asseyait sur un fauteuil, il me faisait une petite introduction érudite à ce qu'on allait entendre, et on passait alors pas mal de cantatrices. Alan est quelqu'un qui a perdu sa mère à l'âge de 11 ans, donc évidemment cette chanson « Parfois je me sens comme un enfant sans mère »,« Sometimes I feel like a motherless child », résonnait particulièrement à ses oreilles et aux miennes connaissant son histoire. Mais on écoutait aussi volontiers Kathleen Ferrier.
Il vous faisait en France musique privée finalement.
Il me faisait un international musique privée, oui. C'est quelque chose dont il avait bénéficié lui-même au début de sa vie. À vrai dire, étrangement, au moment de sa formation militaire, je le raconte dans le livre, et c'est l'objet d'ailleurs du premier morceau qu'on a entendu aujourd'hui, le Secret Music Room. Il se trouve que contre toute attente, à Fort Knox, dans le Kentucky, là où il y avait cet immense complexe de formation militaire où les soldats étaient malmenés, comme je l'ai dit au début de l'émission, il y avait également un salon de musique très précieux, au-dessus du mess des soldats. Des mères de soldats s'étaient cotisées pour qu'en fin de journée, les soldats qui le souhaitaient puissent aller se détendre et s'édifier un peu en écoutant de la grande musique. Et c'est comme ça qu'Alan a eu pour la première fois vent de Beethoven, de Schubert, de qui n'avait jamais entendu auparavant. Et il participait à l'époque à Louisville, capitale du Kentucky, donc, à des concerts de disques qui se déroulaient comme se déroulaient les concerts de disques privés qu'il m'a offert à la fin de sa vie. C'est-à-dire que quelqu'un recevait quelques personnes chez lui. Il n'y avait pas des pick-up dans toutes les maisons à l'époque. Et la personne en question présentait des disques qu'il aimait à son public.
Quelle histoire, quelle rencontre Emmanuel Guibert avec Alan Kopp. Donc je vais dévoiler les noms des 10 gagnants vont recevoir la musique d'Alan chez eux, et je les encourage à ajouter à ce plaisir-là celui de la lecture de La guerre d'Alan et l'enfance d'Alan. Ça a été réédité chez l'association. Et la réponse donc à la question que je posais, c'était Barnet et la note bleue, bien sûr, le chef-d'œuvre de Loustal et Paringo, on peut l'appeler comme ça, qui avait d'ailleurs relancé la carrière de Barney Whelan, qui était un peu oublié avant ça et qui s'est dit, mais bon sang, je vais enregistrer un disque qui sera la bande-son de la bande dessinée. C'était un peu la même chronologie. Et ont bien répondu avec Barney et la note bleue Didier Battard des Moutiers-en-Ré en Loire-Atlantique, Alain Clavery de La Rochelle, Vincent Legendre de Montauban, Éric Martin de Caen, Leïla Messire de Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines, Sophie Naff de Générargues dans le Gard, Agathe Asporbunion de Pellu dans Savoie, Myriam Charland de Madrid, Quetal, en Espagne bien sûr, Laura Farinque de Montlignon dans le Val d'Oise et Sabine Margerie de Rouen. Voilà, on a fait un petit tour de France et même au-delà des Pyrénées, Emmanuel Guibert.
Open Jazz, France Musique.
Au rayon Jazz Culture, on va continuer avec un livre qui raconte une vie. C'est celle de Siggy Lor, le patron du label Act. Il a fêté ses 80 ans et pour l'occasion, il a édité un beau livre au format vinyle, 33 cm sur 33 cm, qui s'appelle A Life in the Spirit of Jazz. C'est une vie évidemment bien remplie. Siggy Lor a été à 25 ans patron d'une major qui était Warner en Allemagne. Il a monté ce label indépendant Act qui a révélé Yun Sunna, sur lequel jouent aujourd'hui Vincent Perani et Émile Parisien, qui a révélé Esbjørn Svensson et le trio EST. Bref, un talent de découvreur en même temps qu'un talent de réussite commerciale pour Siggy Lor. Et pour illustrer ce livre Life in the Spirit of Jazz, j'avais envie de commencer par un des premiers albums qu'il avait publié. Il s'appelait Jazzpania et il était signé Vince Mendoza et Arif Mardin.
Thank you. Ay, siento que mi alma se pierde y entre tiniebla y entre tiniebla. Ay, siento que mi alma se pierde y entre tiniebla y entre tiniebla. Hasta que el tiempo borre la obra de mí, loca de mi corazón, que me hace de sufrir, que me hace de sufrir. Esperando, no sé cuándo volverá. Yo te seguiré esperando y aunque tú no vuelvas
Entre tinieblas, dans l'album Jazzpania, signé Vince Mendoza et Riff Mardin. C'était une composition de Jorge Pardo avec Antonio Carmona pour le label Act de Sigilor. Et on avait en soliste exubérant, magnifique, Michael Brecker au saxophone ténor. Je vous ai vu réagir, Emmanuel Guibert.
Vous m'avez vu onduler.
Oui, ondulé, exactement. Voilà. On avait une rencontre franco-américaine avec la musique d'Alan. On a une rencontre hispano-américaine avec Jazzpania. Un deuxième extrait du catalogue du grand catalogue du label Act, une production signée Sigilor, le patron pour ses 80 ans. Et ben, c'est un souvenir d'un album d'Esbjörn Svensson et de son trio EST. Du point de vue de Gagarin, from Gagarin's point of view. From Gagarin's Point of View, le fameux trio EST d'Herbjørn Svensson. C'est des grands disques du label ACT et parmi les grands artistes qu'avait signé Siggy Lör, ce trio EST. Et il y a eu un moment de magie quand la musique a démarré. Emmanuel Lacaze, Emmanuel Guibert et moi, on était presque en apesanteur comme Gagarin, mais immédiatement. Le pouvoir de la musique, ça représente quoi pour vous, Emmanuel Guibert?
Ah, je veux dire, là, j'ai du mal à redescendre du Spoutnik. Hein. Ouais, c'est tellement important dans nos vies. C'est tellement important. C'est tellement crucial.
Vous travaillez en musique ou vous la gardez pour vos respirations?
Non, je travaille très volontiers en musique. La musique m'accompagne depuis que je suis tout petit. Je fais d'ailleurs pas tellement de différence entre tous ces modes d'expression. Je pense que c'est vraiment la porte à côté. On a besoin les uns des autres. L'aventure de ce label pour lequel je fais les pochettes est formidable parce que
Vision Fugitive.
Voilà, on se mélange. Je reçois la musique à l'état matriciel, les fontanelles pas encore complètement refermées. Il faut que je fasse une image. Je leur envoie des propositions.
Oui, parce que vous en êtes à 20 réalisations à peu près graphiques sur ce label.
Oui, entre 15 et 20. Oui, on a fait. Et déjà, mine de rien, on sort 3 disques par an depuis une petite dizaine d'années maintenant. Donc,
si on collectionne les œuvres d'Emmanuel Guibert, il faut collectionner les disques de Vision Fugitive.
Ah, impérativement. Puis en plus, il y a une musique extraordinairement variée, hein, puisque c'est un label qui se donne aucune barrière, aucune limite. Et j'encourage les gens à vraiment y tremper l'oreille.
Open Jazz. Alex Dutil. France Musique.
Et on va se quitter avec notre jazz au trésor de la semaine, ce disque qui a changé la vie de Pat Metheny, comme Alan Kopp a changé votre vie, Emmanuel Guibert. C'est une interview dont j'ai parlé hier, qui est en ligne, qu'on peut consulter sur un site américain, où Pat Metheny raconte à propos du Four and More, le disque de 1964 de Miles Davis, où il n'y a pas encore Wayne Shorter, mais il y a tous les autres. C'est George Coleman, le saxophoniste, mais il y a Herbie Hancock, Ron Carter et Tony Williams. Et il dit ceci, Pat Metheny, ce disque a eu un impact sur ma vie à plein de niveau. Pour commencer, ce fut mon premier disque tout court. Mon frère aîné, Mike, l'avait rapporté à la maison et quand j'ai eu fini de l'écouter, c'est comme si j'avais pris un grand coup de batte de baseball sur la tête. On prétend que pour apprécier ce genre de musique, ça prend de nombreuses années pour développer des capacités d'analyse. Moi, ça ne m'a pris que 5 secondes. J'avais 11 ans et ça m'a touché aussi profondément que les Beatles quelques mois plus tard, pour les mêmes raisons. Ça sonnait comme l'état du monde à cette époque-là. Ça sonnait à la fois moderne et décalé, mystérieux et éternel en même temps. Thank you. 12 février 1964 à New York, Miles Davis à la trompette, George Coleman au ténor, Herbie Hancock au piano, Ron Carter à la basse et Tony Williams à la batterie. La composition Four de Miles Davis. Vous aviez déjà entendu ce disque, Emmanuel Guibert?
Non, je dois dire. Mais l'influx vital, ça vieillit pas. Hein.
Ah ben,
incroyable.
Oui.
Quelle vibration.
Il y a une vitalité incroyable. Alors, de ce concert, il y a deux disques qui sont sortis. Celui-là qui s'appelle Four and More avec les morceaux rapides. Et il y a My Funny Valentine où ils ont gardé toutes les ballades au lieu de mélanger les choses. Et les deux disques sont aussi indispensables l'un que l'autre.
Vous savez pourquoi je l'ai pas entendu? C'est que je suis né en avril 64. Et donc, en février, j'étais pas encore là.
Mais vous tapiez à la porte.
Tout à fait.
On l'a entendu dans les doigts de Tony Williams. Merci de votre visite, Emmanuel Guibert, pour la sortie de la musique d'Alan. À très bientôt pour votre exposition à l'Académie des Beaux-Arts à Paris à partir du 9 septembre. Et merci à Swat Boukorsa, Emmanuel Dupuis, Gérard Chan, Emmanuel Lacaze et Fabien Flora qui m'ont aidé à faire cette émission. Demain, la saxophoniste britannique Nubia Garcia et dans un instant, Nathalie Piolet.
À réécouter sur francemusique.fr.